La construction de soi sous le regard du colonialiste est-elle possible? Je voudrais préciser deux points qui conditionnent cet exposé. Premièrement, étant de ceux qui ont savouré la publication dans les temps modernes de l'homme au magnétophone et le commentaire qu'en a fait Sartre, une approche du sujet fondée sur les sciences du psychisme n'est pas de ma compétence et ne peut être mon propos. La seconde, étant blanc de peau et ne voulant jouer le rôle de celui qui se met un masque noir, c'est, de l'autre côté du miroir, la permanence de l'assujettissement de l'homme blanc occidental à son image d'être supérieur que je voudrais aborder. L'idéologie de la suprématie de l'homme blanc étant le germe pathogène qui non seulement a justifié, mais rendu parfaitement naturel, la traite négrière, le génocide des Indiens, celui des héréros en Afrique australe ou des aborigènes d'Australie, ou la répression, l'asservissement et la dépersonnalisation des peuples colonisés dans l'Empire français. Idéologie de la suprématie de l'homme blanc qui ne se réduit pas à la couleur de la peau. L'ordre établi par les chevaliers teutoniques sur les marches du monde slave montre qu'il ne suffit pas d'être blanc pour ne pas être considéré comme un sauvage ou un sous-homme, il faut encore être chrétien. Mission évangélisatrice qui sera homologuée par la bulle du pape Alexandre VI à l'adresse des navigateurs conquérants, dans laquelle il proclame que les nations barbares soient subjuguées et réduites à la foi. Avec la Renaissance, l'homme blanc va se convaincre de son universalisme. Le monde est à conquérir et les autres races à soumettre. Supériorité raciale qu'exprime le père Gumilla, un missionnaire dans l'Orénac. D'un point de vue général, l'Indien est sans nul doute un homme, mais d'un point de vue moral, je ne crains pas d'affirmer que l'Indien barbare et sylvestre est un monstre jamais vu. Ou Voltaire, citons une fois encore Laissé sur les mœurs. La race des nègres est une espèce d'homme différente de la nôtre. Si leur intelligence n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure et l'intervalle qui sépare le singe du nègre est difficile à saisir. L'industrialisation va faire passer le colonialisme du stade évangélisateur et mercantile, dont l'expression la plus brutale fut la traite négrière, à celui impérialiste des empires coloniaux. C'est le temps où Joseph Chamberlain, ministre des colonies, déclare « Oui, je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connue, en cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue, que nul climat, nul changement ne peut abattardir et qui infailliblement sera la force prédominante de la future histoire et de la civilisation universelle. » Ou encore le général Hugonnet, affirmant « La question des Arabes est complètement coulée, il leur faudra bel et bien ou mourir, ou s'expatrier, ou prendre la blouse et subir comme salarié la loi du plus fort et du plus roué. » Ce rapide rappel amène une interrogation. Qui peut penser que l'homme occidental puisse sortir indemne de siècles de discours affirmant que ceux qui n'étaient pas blancs et chrétiens étaient des êtres inférieurs, corvéables à volonté ou à exterminer? Est-il possible de croire que d'avoir enseigné à des générations successives le génie de la race blanche, dont la mission était de propager la civilisation, ne conditionne pas l'entendement et les comportements? Nombre de petits blancs, pour reprendre le qualificatif ayant cours au temps de la colonisation. En considérant les populations indigènes comme inférieures, se voyaient ainsi valorisées. Peut-on supposer que la décolonisation a effacé dans les têtes ce statut octroyé? De même, peut-on croire que les élites, choisies pour leur race et désignées par leur rang, ne soient plus imprégnées de leur culture de la suprématie, d'autant qu'est venu s'y ajouter dans les têtes le ressentiment des empires perdus? Nous savons, et il ne s'agit pas de le cacher, que le racisme est la chose la mieux partagée. Qu'il se décline, blanc ou noir, jaune ou arable, entre les races et entre gens d'une même race. Mais nul autre que la race blanche n'a affirmé aussi longtemps, d'une manière si absolue, à un niveau planétaire, sa domination sur les autres races, pillant leurs ressources, se servant des indigènes comme force de travail ou comme chair à canon, et poursuivant une entreprise de déculturation et de dépersonnalisation en imposant au peuple dominé langue, religion, us et coutumes, jusqu'à occulter leur histoire, car comme l'a écrit Jean Drèche, c'est le propre d'un pays colonisé de ne pas avoir d'histoire. Dans Peau noire et masque blanc, Fanon souligne comment les comportements humains, les damnés de la terre, sont gangrénés par le colonialisme et le racisme. Il répondait là à un besoin de survie identitaire. De très nombreuses contributions d'ex-colonisés sur les effets aliénants de la colonisation et ceux tout aussi ravageurs du néocolonialisme, favorisés d'ailleurs par la complicité et la corruption d'une grande partie des élites locales, témoignent et jalonnent le chemin de cette désaliénation. Mais on reste dans l'attente que les élus du ciel mettent en question leur identité de colonialiste qui pervertit et leur raison et leur conduite. Dans Histoire et recherche identitaire d'Abdelmalek Sayad, on peut lire « Renouer les fils de l'histoire et restaurer la continuité de cette histoire, ce n'est pas simplement une nécessité d'ordre intellectuel, c'est une nécessité d'ordre éthique, en ce qu'elle a sa répercussion sur tous les actes de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, sur toutes les représentations qu'on se donne de nous-mêmes. Il en va à ce propos pour le colonisateur comme pour le colonisé. Comme les peuples victimes du colonialisme doivent se construire, l'homme occidental doit assumer son histoire, se libérer de sa propre aliénation, il doit lui aussi faire peau neuve. Cela ne peut être là un simple acte de repentance ni un geste de contrition à l'égard de l'autre. Mais cela doit être une entreprise critique, assumant la perversion des conduites qu'ont permis cet holocauste que représente la traite négrière et le colonialisme. J'emploie le terme holocauste à dessein, par référence au terrible constat d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. Au fond, dit-il, ce que le très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, c'est le crime contre l'homme blanc. Faute d'entendre la nécessité de mener ce travail, l'infériorisation des autres races ne cesse d'imprégner le comportement et le mode de pensée de l'homme blanc. Dictant aujourd'hui la politique unilatéraliste de puissance occidentale, en même temps qu'elle fonde la théorie du clash des civilisations. Selon cette vision, l'Occident représente encore et toujours le bien, le progrès, la civilisation, et avec la même bonne conscience qu'au plus beau temps des conquêtes coloniales, se déclinent des visées hégémonistes sans tirer d'enseignement de la fin des empires coloniaux. Depuis plusieurs années est évoqué, et souvent évoqué en France, le devoir de mémoire. Faut-il encore définir ce que l'on entend par devoir de mémoire? Il ne peut être réduit à la simple reconnaissance des faits. Les travaux d'histoire sont là pour les établir. Il ne peut non plus être le domaine réservé des historiens et des chercheurs, moins encore des politiciens. Le devoir de mémoire est un acte citoyen qui, pour nous, blancs, nécessite la réappropriation du passé colonial, conscient que les chaînes de la colonisation se confondent avec celles de l'esclavage et jusqu'à la pleine acceptation que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Deux exemples pour montrer combien historiquement et éthiquement on reste dans le déni de la réalité coloniale. Le premier, lors de la conférence des Nations Unies à Durban en 2001, il a été débattu si l'esclavage atlantique pouvait être qualifié de crime contre l'humanité. Au terme des débats, la déclaration de Durban ne retient pas cette qualification, en usant d'une formule aussi alambiquée qu'indigne. Je cite, « Nous reconnaissons également que l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité et qu'il aurait toujours dû en être ainsi. Tout est dans le « il aurait toujours dû en être ainsi », qui signifie juridiquement que comme il n'en a pas été ainsi dans le passé, la rétroactivité n'ayant cours en la matière, la traite négrière ne peut être reconnue comme un crime contre l'humanité. Par cet artifice, l'Occident se protège non pas contre le jugement posthume de négrier pour crime contre l'humanité, mais contre toute revendication de réparation financière. Exit les réparations. Il y eut débat à Durban aussi pour savoir s'il fallait exprimer des regrets, des remords ou des excuses aux populations victimes de la traite et du colonialisme. Aucun de ces mots, pourtant trop faibles, n'a finalement été retenu. Il est seulement fait appel à la communauté internationale à honorer la mémoire des victimes de ces tragédies. Ceci confirme que, côté occidental, on ne fait montre d'aucune perception de la violence qu'a représenté pour les anciens colonisés leur rapport aux Blancs, alors que la raison, pour ne pas parler de la justice, demande de répondre à l'incitation de Fanon que Noirs et Blancs, tous deux, ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une véritable communication. Communication sans laquelle l'iniquité historique du racisme ne peut être dépassée, l'homme blanc continuant à reproduire son aliénation raciste fondée sur l'intime conviction de sa supériorité. Le second exemple propre à la France, celui-là, c'est la loi du 24 février 2005 sur le rôle positif de la colonisation. Abrogée, elle n'en est pas moins révélatrice de la permanence de l'idéologie coloniale. On a voulu la présenter comme un produit de godillot de la droite parlementaire. C'est oublier que cette loi reprenait une proposition de loi du 15 mars 2003 pour que l'œuvre positive de l'ensemble de nos concitoyens qui ont vécu en Algérie pendant la période de la présence française soit publiquement reconnue. Ce premier projet de loi, co-signé par une centaine de députés, fut déposé par Jean Leonetti, maire d'Antibes et premier vice-président du groupe UMP, et Philippe Douste-Blazy, alors maire de Toulouse, secrétaire général de l'UMP et aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Il ne s'agit pas là de second couteau. Cette première tentative s'est enlisée, un nouveau projet de loi fut présenté, celui que l'on connaît, demandant la reconnaissance en ce qui concerne alors l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et même en débat de commission, il fut ajouté l'Indochine. L'article de loi abrogé, on a laissé entendre que ce n'était là que relent colonialisme et que le débat était clos. C'est vouloir délibérément ignorer les sentiments exprimés par les élus de la nation lors des débats. En commission, à l'exception du sénateur Guy Fischer, qui a déclaré que ce texte est devenu un cheval de Troie banalisant les guerres coloniales, un hymne à la présence prétendument civilisatrice de la France en Afrique, la loi a été adoptée pratiquement sans opposition, et plus encore, lors d'une séance de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, le député Jean-Pierre Soisson a rendu hommage au colonel Argou, dirigeant de l'OAS, sans soulever de réaction dans l'hémicycle. Deux facteurs, on en a parlé déjà, furent à l'origine de son abrogation. D'une part, la vive réaction des historiens, et surtout la seconde, la plus importante, l'émotion et la révolte des populations des pays ex-colonisés, qui, comme au plus beau temps du colonialisme, voyaient leur identité et leur histoire toujours refusées. Ces exemples, et combien d'autres, en France, mais également aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans l'ensemble du monde occidental, montrent que le discours colonial, mis sous le boisseau suite au mouvement de décolonisation pendant les années 50 et 60, est aujourd'hui réactivé. Ce n'est donc pas au retour du colonial auquel on assiste, car l'idéologie coloniale fortement intériorisée n'est jamais disparue des modes de pensée et n'a cessé de conduire les politiques occidentales en direction des États et des peuples anciennement colonisés, mais à sa réhabilitation dans l'intention de préserver des positions hégémoniques et de mettre en place de nouvelles dominations. Pour qu'une autre histoire non amputée soit possible, la construction de soi du colonisé est indissociable de la déconstruction de l'homme blanc colonisateur. Cela implique une rupture radicale avec le déni colonial, un travail critique qui passe par la reconnaissance qu'aucune race n'a à rechercher en quoi elle est supérieure aux autres races, de mettre fin à la conviction intime d'être porteur d'une mission universelle, d'accepter cette vérité simple que rien ne peut justifier le système colonial, d'entendre ce que signifie pour l'autre d'avoir été spolié, soumis, exterminé, nié dans son identité, enfin de reconnaître ce qui différencie la violence de l'occupé de celle de l'occupant. Il y eut ces dernières années en France un début de reconnaissance de la réalité coloniale. La loi qualifiant l'esclavage comme crime contre l'humanité en est un exemple. Mais l'on s'en tient le plus souvent à l'écume des choses. Par exemple, il est aujourd'hui possible de parler de la guerre d'Algérie, qualificatif longtemps interdit. Le recours à la torture est dénoncé, mais il est présenté comme un acte isolé, une bavure, alors que ce fut un moyen organisé et planifié de conduire la guerre. Le massacre du 17 octobre est reconnu, voire ceux des Aurès en 1945. Reconnaissance due, cela doit être souligné, parce que des voix françaises n'ont cessé de dénoncer ces crimes. Mais on reste silencieux pour s'en tenir aux actes de guerre sur les camps de regroupement, dans lesquels, selon le rapport remis au gouvernement par Paul Delouvrier, délégué général en Algérie, 200 000 personnes sont mortes de faim, sur les opérations homo qui relevaient du terrorisme d'État, sur les zones interdites à l'intérieur desquelles tout ce qui bougeait, humain ou animal, était abattu. Le silence est le même pour la répression des révoltes de Madagascar en 1947 qui, selon les chiffres donnés lors même du débat à l'Assemblée nationale, a fait 80 000 victimes. Pour le bombardement d'Haïfong en 46 qui fait 6 000 morts, même déni pour les traumatismes et dépossessions de soi que représente le système colonial en lui-même. Ce débat ressurgit constamment dans la société française, car la plaie coloniale ne peut se refermer tant qu'elle n'aura pas été assumée, libérant les générations à venir de ce cancer idéologique. Travail de désaliénation d'autant plus possible qu'il ne se fait pas en France sur un terrain vierge. Dépassant ce qui est position humanitariste, simple réprobation morale ou magnanime solidarité, ce travail, sauf à vouloir se satisfaire d'une vision manichéenne des débats théologiques, philosophiques et politiques suscités par le racisme et la colonisation, peut s'appuyer sur l'engagement intellectuel et militant d'anticolonialistes et abolitionnistes, appartenant à la race des colonisateurs, qui ont conduit des combats forts, pour certains jusqu'à la prison, et même jusqu'à la mort. Voix certes trop rare, combat toujours minoritaire, face à la culture de la suprématie et contre le parti colonial, mais convictions qui permettent au devoir de mémoire de ne pas être une autoflagellation, mais une démarche en conscience et pédagogique. Démarche pouvant s'appuyer sur une riche littérature, anticolonialiste inscrite dans les débats de son temps. Qu'il s'agisse de Montaigne, Diderot, Voltaire, lui aussi, l'abbé Raynal ou Condorcet, de Camille Pelletan, Paul Louis ou Jaurès, d'Albert Londres, Jean Rouch, Charles-André Julien ou Maxime Rodinson, de Claude Bourdet, Germaine Tillion, Sartre ou Francis Janson ou des travaux plus récents. Qu'il s'agisse des luttes dont témoigne le manifeste pour le respect de la loi ou le manifeste de réponse aux intellectuels fascistes dans les années 30, de l'appel du comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre d'Algérie en 1955 ou de la déclaration sur le droit à l'insoumission des 121 en 1961. Qu'il s'agisse de l'engagement militant allant des 3 à 400 000 manifestants contre la guerre du RIF en 1925 aux membres des réseaux de soutien pendant la guerre d'Algérie, il ne s'agit pas là d'une histoire honteuse, mais d'une histoire étouffée par le discours colonial dominant. Pour que le regard du colonialiste disparaisse, que s'établisse cette indispensable communication demandée par Fanon entre les races, à laquelle a appelé Fanon, un premier devoir de mémoire et des livres scolaires n'est-il pas que les jeunes générations connaissent le dire et le faire de l'idéologie coloniale. Le contenu des débats qui ont opposé les anticolonialistes aux colonialistes, mais aussi ce qui a distingué les colonialistes de progrès, voyant dans la civilisation occidentale ou les forces progressistes dans les métropoles la voie libératrice de l'oppression coloniale, de ceux pensant que cette libération ne pouvait résulter que de la lutte émancipatrice des colonisés eux-mêmes. Comme il est important qu'elles entendent que le racisme est indissociable du colonialisme et que la dénonciation du racisme n'est pas totale aussi longtemps qu'elle n'inclut pas la dénonciation du colonialisme. Christiane Taubira, lors des États généraux des populations noires, a déclaré « Le monde a besoin de votre pugnacité, il n'a pas besoin de la mesure de vos blessures. » En écho à cette forte déclaration, si l'on veut en finir avec le regard du colonialiste, pour que nous nous engagions dans une voie commune, nous, Blancs, devons également faire montre de pugnacité, mais il nous revient, et nous ne pouvons pas en faire l'économie, prendre toute la mesure des blessures causées aux colonisés, sans quoi rien ne sera possible.